mot désigne le hareng, c'est schletz.
Schletz. Schletz.
Vous placez votre langue ici.
Schletz. Schletz.
Cette fois-ci, c'est mieux, non?
Je vais au théâtre. Tu viendras me voir jouer un jour.
Eh bien, on va répéter ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question du Cambodge, de la jungle, de Daniel Auteuil, de Claude Régis, de Doris Lessing, d'amis, de nouvelles amies et même de Jalna. Avec Raphaël Personnaz à l'affiche du cinéma avec Le Temps des aveux, le film de Régis Varnier sur la détention de François Bizot par les Khmers Rouges. Et puis au théâtre pour Les cartes du pouvoir de Bo Willimon, Lucille Como.
Portrait d'un comédien qui fuit dans la jungle cambodgienne ou au quai des orfèvres, les rôles usés du genre idéal.
19h30, la chronique cinéma de Jean-Marc Lalanne qui met ce soir à son programme un film japonais.
Au revoir l'été de Koji Fukada.
19h35, plateau répétition avec Catherine Mouchet en second rôle dans Mon ami Victoria de Jean-Paul Sivérac, une comédie sociale hantée par le mélodrame américain des années 50, Lucille Como.
Retour sur le parcours d'une comédienne qui défend au cinéma la liberté qu'offrent les seconds rôles.
Mais d'abord, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez, qui rit quand il pleut, et qui s'ouvre sur le son du jour.
Look at this.
Kim Jong-un wants to do an interview with Dave Skylark.
He's a fan. Look at him. If that ain't a real story, what is?
Okay, let's do it.
We're going to North Korea!
You two are going to be in a room alone with Kim.
We got the interview!
The CIA would love it if you could take him out.
Hello, Zoé Sfez.
Hello, Laurent Gomard. Hello to all.
Elle est prête à toutes les improvisations, elle est formidable. Voilà. C'est votre... Est-ce que quelqu'un pourra nous en délivrer un jour? C'est votre son du jour. Il est bien du jour, non?
Il est bien du jour, ouais, il est plus ou moins du jour. C'est une bande-annonce. C'est la bande-annonce du film L'Interview qui tue, qui est un film américain produit par Sony Pictures, dans la plus pure tradition des comédies américaines. Alors ce film raconte comment deux journalistes en recherche d'audience parviennent à obtenir une interview avec Kim Jong-un, le leader nord-coréen, et finalement à l'enlever pour le compte de la CIA. Alors il faut dire, le film prend carrément... en rigolade, se moque assez allègrement du régime totalitaire de la Corée du Nord. Son avant-première devait avoir lieu jeudi et aujourd'hui, elle a été annulée pour cause de menaces terroristes. Alors pourquoi? Je rappelle que début novembre, tout le système informatique de Sony Pictures a été hacké par un groupe qui s'est baptisé les Gardiens de la Paix. Depuis le début du mois, ils enchaînent les révélations sur les projets de la firme, sur la manière dont les dirigeants parlent de ses employés, y compris des acteurs, sur le racisme supposé de sa coprésidente qui a été forcée de démissionner. Et il menace d'en dévoiler plus encore si Sony ne renonce pas finalement à diffuser ce film qui tourne en ridicule donc la Corée du Nord. Pire, les hackers ont menacé d'offrir un cadeau de Noël qui ressemblerait au 11 septembre. Si la firme s'obstinait, Sony a donc fini par céder, en tout cas sur cette avant-première.
Eh bien, on passe tout de suite au dossier du jour. Journée de mobilisation ce mercredi pour les guides conférenciers à travers toute la France, une profession habituellement plutôt discrète. Ils protestent contre la déréglementation dont leur profession pourrait bientôt faire l'objet.
Oui, alors tout est parti de la fameuse loi Macron du nom de notre ministre de l'économie qui est discutée en ce moment même à l'Assemblée nationale. Alors, elle est censée intervenir pour simplifier la vie des entreprises françaises et elle prévoit donc dans ce cadre-là la déréglementation de beaucoup de professions. Ça va des avocats aux huissiers de justice en passant par les chauffeurs d'autocars. Et le gouvernement a indiqué qu'il allait agir par ordonnance pour remettre en cause le système en vigueur, en tout cas tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, pour notamment les négociants de vins spiritueux, ne me demandez pas pourquoi, et aussi pour les guides conférenciers. Donc, alors jusqu'ici, il faut le savoir, pour être guide dans les musées, dans les monuments nationaux, il fallait avoir une carte de conférencier obtenue grâce à un diplôme, donc avoir été formé en France, comme l'indique Sophie Bigogne, porte-parole du collectif des guides conférenciers.
Avec l'éventuelle déréglementation, au lieu d'avoir besoin de ce diplôme, il suffira en fait de s'enregistrer sur un registre. On dit qu'il pourrait être géré par Atout France, mais on ne sait pas très bien. On ne sait pas non plus très très bien finalement ce qu'il faudra avoir pour pouvoir être enregistré, si on fera des équivalences avec des diplômes à l'extérieur, mais ça devient très très compliqué. Encore en communauté européenne, peut-être qu'on peut avoir des équivalences, mais avec le reste du monde, c'est compliqué. Donc dans la réalité des faits, à partir du moment où il y aura un simple registre, finalement, il n'y aura aucun moyen de contrôle. Un musée, un château n'aura aucun moyen de contrôle. De plus, on pense que c'est ouvrir la porte à cette possibilité qu'ont les gens de venir avec leur propre groupe et de guider sur place. Et c'est dommage parce que nous sommes souvent la seule personne du coin, du cru, que nos touristes étrangers rencontrent.
Alors, mais pourquoi le gouvernement éprouve-t-il le besoin de déréglementer cette profession ?
Alors la loi Macron, je vous l'ai dit, elle a pour but donc officiellement de simplifier la vie des entreprises, de déverrouiller la croissance, je cite le communiqué de presse du gouvernement. Alors en gros, elle intervient là où il y a peu d'offres pour une très large demande. Mais alors on ne peut pas vraiment dire que ce soit le cas chez les guides conférenciers, puisqu'ils sont 10 000 en France à avoir cette carte et seulement 5 000 à travailler. Alors globalement, on considère que le marché est plutôt largement bien pourvu, sauf évidemment sur une petite bulle. Il manque effectivement des guides qui parlent chinois face à l'arrivée massive des touristes chinois. Et l'on soupçonne le gouvernement d'avoir voulu pallier ce problème, mais les guides conférenciers ne comprennent pas pourquoi c'est toute la profession qui doit en pâtir, d'autant qu'elle a en plus déjà fait l'objet d'une refonte totale il y a 2 ans, comme l'explique Armelle Villepelet. Elle aussi, elle est guide et elle est présidente de la Fédération nationale des guides interprètes et conférenciers.
Enfin, ce qui m'étonne dans le projet, en fait, c'est qu'il y a 2 ans, on a pu mettre en place des formations spécialisées, bon, qui existaient déjà en partie autrefois pour les guides interprètes, mais qui aujourd'hui valent pour tous les guides conférenciers. Je ne vois pas très bien pourquoi aujourd'hui on essaye de donner tout d'un coup ce titre à une foule de personnes, puisque c'est ça. Bien sûr, si on ouvre comme ça un peu les vannes et qu'on donne un peu ce titre à plein de personnes, on va créer sur un métier qui est déjà très précaire, des conditions de concurrence extrêmes. Et je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur travail, en sachant que la plupart des gens sont CDD. Quasiment personne en France est en CDI sur ce type de profession.
Voilà, alors difficile de trouver un interlocuteur en face pour réagir sur ce sujet. Atout France, qui est l'organisme qui promeut le tourisme en France, indique qu'il s'agit bien d'un choix du gouvernement. Et le dossier au gouvernement est aussi difficile à identifier, puisqu'il concerne à la fois le ministère de l'économie et celui de la culture. En attendant, les guides ont lancé une campagne auprès des députés et des sénateurs pour les convaincre de ne pas ratifier l'ordonnance qui devrait leur être soumise en début d'année prochaine.
Merci Zoé. Eh bien, on passe tout de suite à la suite de ce journal de la culture avec les brèves.
Et l'on ouvre avec le site du MUCEM qui a accueilli cette année plus de 2 millions de visiteurs. C'est un chiffre assez intéressant. Puisque
le MUCEM de Marseille.
Le MUCEM de Marseille, le musée qui a ouvert à Marseille. Alors il y a bien eu 2 millions de visiteurs qui se sont promenés sur la terrasse, qui se sont baladés autour du MUCEM. Et pourtant, il n'y en a que 630 000 qui ont visité vraiment les expositions, c'est-à-dire 3 fois moins. Ouvert à moitié à mi-2013, le musée tablait à peu près sur ces chiffres-là. Il reste néanmoins largement au-dessus de son régime de croisière qui est fixé à 350 000 visiteurs par an.
Encore faut-il veiller à la qualité quelquefois des expositions dans ce musée. La Monnaie de Bruxelles licencie 16 employés et abandonne la danse.
La maison d'opéra bruxelloise qui doit faire face à une baisse drastique de 15% de son budget, on en avait parlé ici dans le journal de la culture, annonce qu'elle va devoir, pour survivre, se séparer de 16 employés et largement revoir ses ambitions. La Monnaie va réduire son rythme de programmation en passant globalement de 9 à 10 productions annuelles seulement pour en tout cas 12 à 13. Et puis, autre coup de tonnerre dans cette maison où Maurice Béjart a travaillé pendant 27 ans, la Monnaie abandonne la danse. Par ailleurs, le cycle Monteverdi, qui était prévu en 2016 sous la direction de René Jacobs, est lui aussi supprimé, tout comme la production L'Opéra de Katsu de Kurt Weill.
Et la dernière.
Alors c'est une histoire de chef-d'œuvre perdu, de comédie pour enfants et de passionnés d'histoire, vraiment très passionnés, une histoire tellement rocambolesque qu'on aurait vraiment eu du mal même à l'écrire pour le cinéma. Alors c'est l'histoire de la Dame endormie au vase noir. Très beau tableau du maître d'avant-garde hongrois Robert Bereny, qui était considéré comme perdu totalement depuis les années 20. Alors, elle aurait pu largement rester perdue, enfin, comme la plupart, beaucoup de chefs-d'œuvre, sans l'œil averti d'un certain Gergely Barki, un expert qui travaille pour le Musée national de Hongrie. Alors, il adorait cette œuvre, il l'avait vue, mais juste en photo, puisqu'il était tout petit quand elle a été perdue. Il n'était même pas vivant, puisqu'elle a été perdue en 1928. Et alors, en 2009...
C'est vrai que c'est rocambolesque.
En 2009, figurez-vous que cet homme regardait, avec sa jeune fille de 3 ans, un film qui s'appelle Stuart Little. Et là, donc Stuart Little, souris, tout ça,
pas aventure, souris, tout ça, oui, c'est une sorte de petite souris.
Voilà, Hugh Laurie, Gina Davis, etc. Donc, film...
A priori, rien à voir.
Et là, d'un coup... Flash, il se rend compte que derrière Hugh Laurie, il y a une toile et que cette toile ressemble beaucoup à une vieille photo de cette fameuse œuvre perdue, noire en noir et blanc, qu'il avait vue, publiée dans un catalogue de 1928. Alors la toile n'avait jamais été remarquée par les millions de spectateurs qui avaient déjà vu le film, puisque ce film date de 99 et tout ça, ça s'est passé en 2009. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il a essayé de retrouver la scénographe qui avait travaillé sur le tournage aux États-Unis et elle lui a expliqué eh bien, qu'elle était passée chez un antiquaire à Pasadena, en Californie, qu'elle l'avait acheté une bouchée de pain et que voilà, le style d'avant-garde lui paraissait bien convenir au salon de Stuart Little. Alors il a été voir le propriétaire, il a été retrouver l'œuvre. Elle a été vendue aux enchères la semaine dernière et elle retrouvera donc la voix de la Hongrie.
C'est une bien belle histoire en cette veille de Noël. Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre de la part de nos invités, Raphaël Personnaz, Catherine Mouchet? Raphaël Personnaz, il y a quelque chose que vous voudriez commenter ou...
Non, mais je repensais à l'histoire de la Corée du Nord. C'est peut-être l'occasion de mettre l'éclairage sur un pays dont on ne parle jamais, où on peut quand même voir des camps de concentration sur Google Maps. C'est quand même fou et dont personne ne se saisit de ce sujet-là. Donc j'entendais évidemment, il y a Sony, il y a tout le film, etc. Mais c'est quand même un régime dont personne ne parle jamais, plus ou moins.
Catherine Mouchet, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez commenter dans tout ce que vous venez d'entendre ?
Moi, c'est plus futile.
Ouais, c'est un peu futile.
On a le droit d'être
un peu plombant.
Je suis touchée par votre histoire de tableau et j'ai entendu dire par des amateurs de tableaux qu'un tableau n'avait pas de propriétaire, qu'il était reçu à chaque fois chez quelqu'un. Ça m'avait beaucoup touchée. Donc, il passe de personne à musée comme ça.
Là, il avait été reçu par Stuart Little. C'était quand même pas mal.
C'est marrant. Hein.
C'est une souris, non ?
Je crois que oui.
Toute petite souris.
Oh, Jean-Marc, j'adore quand
même ça.
Qui porte des baskets.
Quelle marque ?
Je sais pas.
Voilà. Pour finir ce journal, je voudrais vous demander, Zoé Sfez, comme cela, hein, au débeauté, peut-être un cadeau avant l'heure pour Noël, de nous fredonner une chanson de Podane, puisque vous la répétez tous les jours dans le bureau. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Allez-y. Une chanson
Alors,
de
je vous
prince.
La fais, je la fais, je la dédicace à ma sœur, tout le monde s'en fiche. Je vais faire la chanson du prince. Raphaël Personnaz a été un prince d'ailleurs dans un film, donc je vous la fais
en short. Un duc, c'est pas du tout la même chose, mais aucun sens de l'aristocratie.
Oui, mais c'est le frère du roi. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour en passage. Celui qui rend fou les plus sages, j'ai bien cru reconnaître son regard. Et je ne vous en poserai pas plus que ça.
Bravo. Super. C'était presque pour vous aussi, Jean-Marc. Vous voyez, il n'y a pas une émission où vous n'êtes là que l'on ne parle de Jacques Demy.
C'est formidable.
Le rendez-vous.
Je dois la vie à un homme qui en a exécuté des milliers d'autres. Mon sauveur est un bourreau, un assassin. Je ne sais pas s'il a des remords. Moi, j'en ai.
Plateau physique avec vous, Raphaël Personnaz, révélation 2010 du film La princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier. Dernièrement, vous étiez au générique de Une nouvelle amie de François Ozon, toujours en salle. À ce propos, d'ailleurs, François Ozon avait d'abord pensé à vous dans le rôle de l'homme qui se travestit pour garder le souvenir de sa femme décédée. Vous aviez passé des essais.
Oui, on s'est retrouvés face à face. Il avait une petite boîte en face de lui qu'il a ouverte. Il y avait une perruque dedans. Il m'a dit « Est-ce que tu veux la mettre ?» J'ai dit « Allons-y ». J'ai mis du rouge à lèvres et puis on s'est regardé et puis on s'est dit que ça n'allait pas du tout. Enfin, moi, je me sentais pas du tout à ma place. Je me sentais costumé, quoi. Donc, très vite, on l'a vu tous les deux. Donc, on s'est séparés. Bons amis. Et puis, il m'a rappelé après pour... L'autre
rôle masculin. Alors à la rentrée, ce sera SK1, le film de Frédéric Tellier où vous interprétez Charlie, un policier qui traque le tueur en série Guy Georges. Et aujourd'hui, sorti en salle du Temps des aveux de Régis Varnier, dans lequel vous interprétez François Bizot, un ethnologue français capturé au Cambodge au début des années 70 et accusé par les Khmers Rouges d'être un espion à la solde de la CIA. Et vous êtes depuis plusieurs semaines au Théâtre Héberto à Paris dans Les cartes du pouvoir, un drame politique de Beau Willimon dans une mise en scène de Ladislas Chola. On va y revenir. Donc au cinéma, deux films, l'affaire SK1 et le temps des aveux, tous deux inspirés de faits réels et de personnages qui sont encore en vie et que vous avez rencontrés, le policier Frank Mann d'un côté puis Serge Bizot de l'autre. Qu'est-ce que ça suppose comme travail en amont avec eux ?
François Bizot.
Ouais, François Bizot.
C'est très compliqué, il faut les approcher, j'allais dire un petit peu comme un journaliste, mais sans brusquer les gens. Parce que c'est évidemment des périodes dures pour eux, compliquées, qui les ont marquées à jamais. Donc je peux me mettre à leur place, imaginer un jeune garçon qui arrive, enfin jeune, plus si jeune que ça, mais qui arrive et qui leur pose des questions spécifiques sur cette période-là, c'est compliqué. Donc c'est parfois passer du temps avec eux. Et puis, dans le cas de François Bizot, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, chez lui, à voir ses souvenirs, à entendre ses silences. C'était ça qui était marquant. Donc après, il ne s'agissait pas de les singer, d'ailleurs, dans les deux cas. Hein, mais il s'agissait de s'approcher un petit peu des émotions qu'ils avaient pu me transmettre. Et puis parfois du mystère. Dans le cas de François Bizot, c'est un personnage assez mystérieux.
Beaucoup de silence, oui.
Beaucoup de silence.
Au vu de ce qu'il a traversé, on peut le comprendre.
Ouais. On peut le comprendre. Et, mais d'ailleurs, ça m'avait frappé dans le portail quand j'avais lu le livre. C'est cette impression aussi de silence, de calme qu'il peut y avoir dans la jungle, dans le camp qui est décrit et qui est dans le film aussi. Cette absence de son ou en tout cas de paroles et des choses qui passaient donc parfois par le physique et au-delà des mots, tout ça m'intéressait. Quoi.
Vous ne lui aviez rien pris sur le physique ?
À François Bizot ?
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué dans sa façon d'être, de marcher, de se poser ?
Oui, oui. Je tiens très droit. C'est quelque chose comme ça. Et puis après il m'a montré des photos de lui à sa sortie de détention. Donc même s'il m'a dit non, mais ça allait, je mangeais quand même un bol de riz par jour, etc. C'était frappant de voir sur cette photo à quel point il avait maigri, à quel point il s'était asséché. Mais il essayait de rester malgré tout très digne. Enfin, c'est une photo qui m'a marqué en tout cas.
Lucille Comeau.
Régis Vernier a donc tourné dans la jungle, ce qui n'est pas un lieu facile. François Bizot était attaché dehors, parfois quasiment sans rien boire, sans rien manger, sous un soleil brûlant ou sous les pluies de la mousson. Le tournage, je crois, s'est fait de façon chronologique. Qu'est-ce que ça vous a permis de développer, vous, au niveau du jeu ?
Ça m'a permis déjà de perdre 10 kilos pendant la durée du tournage, pendant les 3 semaines qu'on a tourné dans la jungle, la partie du camp. Donc ça m'a permis peut-être d'approcher les choses, pas de manière intellectuelle, mais enfin de ressentir clairement ce qu'était la faim, le manque, de dormir aussi un petit peu dans la jungle, seul. Voilà, on s'en approche, on vit tout ça par procuration, mais ça m'a permis ça. Et puis, non, mais le fait d'avoir la chance de tourner au Cambodge avec des gens qui ont vécu ça, des gens qui venaient jouer dans le film, même si c'était absolument pas leur métier. Et donc d'être dans des conditions quasi, pas documentaires, mais s'en rapprochant. Et en tout cas, Régis Vernier, juste avant le tournage, a été faire un documentaire qui est passé sur Arte, sur le Bhoutan. Et je crois que c'était une des premières fois qu'il allait faire avec donc, deux personnes un documentaire. Et son approche du film a vraiment changé en fonction de ça. Moi, c'est ça que j'ai aussi trouvé assez intéressant. C'est que d'un coup, Régis Varnier, on le connaît avec Indochine, les grandes fresques, etc.
Les grandes fresques romanesques, oui.
Romanesques, lyriques, etc. Et là, d'un coup, il y a quelque chose de changé chez lui. Même dans le film, certains pourront peut-être le reprocher, mais moi, je trouve que c'est une approche très pudique des choses. C'est peut-être s'il n'y a pas de musique du tout, parce qu'on n'a pas de réponse sur cette relation en fait entre le doute et Bizot. On
entre
sait pas
son
ce que
bourreau et Bizot. Ouais.
C'est compliqué de définir le lien qu'il y a entre ces deux personnes. Il y a eu un contact entre un monstre et un humain à un moment donné, et les deux se sont vus non pas comme des ennemis mais comme des hommes. Voilà. Donc il y a eu un contact. C'est pas le syndrome de Stockholm. C'est pas de l'amitié. C'est plus compliqué que ça.
Régis Vernier, que nous recevions la semaine dernière, nous racontait que vous aviez passé beaucoup de temps là-bas, parfois seul. Qu'est-ce que vous faisiez, Raphaël Personnaz ?
Je n'étais pas tout à fait seul. J'étais avec un franco-khmer et j'ai appris quelques rudiments de khmer parce que je devais parler un petit peu dans le film. Et on se baladait soit dans les sites d'Angkor, donc on va dire pour la partie un petit peu historique, majestueuse, ou soit on allait dans des lieux un peu plus insalubres, moins ouverts au public. Et j'allais pratiquer mon khmer avec toutes les personnes qu'on croisait. Donc c'était une manière de s'insérer dans le pays et puis de là aussi, c'est quelque chose de l'ordre du ressenti. Je ne pourrais pas vous donner des explications claires là-dessus, mais ce pays transpire son histoire. Les gens
très récente encore.
Très récente.
Puisque les bourreaux, enfin les fils de bourreaux, côtoient les personnes qui sont rescapées ou qui ont eu des familles exterminées.
Oui. Et d'ailleurs, bon, c'est un pays bouddhiste, etc. On sent à quel point le présent est important pour eux et que le passé ne doit jamais être un poids et qu'ils essayent d'avancer. Mais ça ne veut pas dire oublier. Donc on sent quand même cette douleur présente, mais très pudique. Moi, ça a été. Je crois que toute personne qui a eu la chance un jour d'aller sur ces terres a senti ça.
Lucille.
Comme tous les jours, Raphaël Personnaz, on demande à nos invités d'apporter un son qu'ils avaient envie d'entendre. Et vous avez choisi ça.
បងបណ្ដូលចិនអើយខ្ញុំសូមលាហើយលាទាំងអាឡ័យតាំងពីពួកខ្ញុំបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយមកខ្វាយនឹងស្ដាយពុំមានពេលឡើយអូបានដំបងកងកម្មវាសនា
identification de ce son et aussi la raison pour laquelle vous l'avez choisi.
Alors c'est un chanteur cambodgien qui est une légende au Cambodge qui s'appelle Sin Sisamut. C'est un chanteur qui a été tué par les Khmers Rouges parce que le simple fait d'être chanteur, de porter des lunettes ou d'avoir un livre chez soi était évidemment considéré comme un crime. Donc on exterminait les gens. Et c'est une personne qui a allié des chansons traditionnelles khmères avec des petites sonorités un peu américaines. Et c'est devenu une sorte de Frank Sinatra cambodgien. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Vous voyez des CD partout dans la rue de lui. C'est vraiment... une figure emblématique, et là il chante sur une ville qui s'appelle Battambang, qui est la deuxième ville la plus importante du Cambodge, qui est le grenier du Cambodge, et qui est une ville qui a été marquée par, et d'ailleurs on le voit encore dans l'architecture, par la présence coloniale française. Et c'est une ville qui est très... les Cambodgiens disent qu'elle se rapproche sans doute le plus de ce qui existait avant les Khmers Rouges, c'est-à-dire que c'est une ville qui n'a pas besoin du tourisme pour vivre aujourd'hui. C'est le grenier du Cambodge, enfin voilà, c'est un chanteur assez emblématique de ce pays.
Raphaël Personnaz et Catherine Mouchet, je sais que vous vous connaissez, ou pas d'ailleurs. En tout cas, vous avez partagé le même film, vous étiez dans Le Pornographe, je crois, de Bertrand Bonello, c'est ça, hein?
Oui.
Ouais. Moi, très rapidement, hein, mais...
Moi, rapidement aussi.
Voilà. Mais pas du tout, vous avez partagé aucune scène, hein?
Non, moi, je partageais avec Jérémy Régnier et Jérémy Elkaïm.
Ah.
Voilà.
Et vous, Catherine Mouchet?
Avec Jean-Pierre Léo.
Ah oui, d'accord. Presque deux films en un. Dans les entretiens qu'on a lus, Raphaël Personnaz, vous évoquez des acteurs comme Robert De Niro, Viggo Mortensen. En France, vous citez Patrick Devers, c'est-à-dire vraiment des acteurs physiques, capables de grossir, maigrir, devenir laid, méconnaissables. Qu'est-ce que ça dit de votre rapport au jeu? Parce que vous n'êtes pas le seul dans cette génération d'acteurs de parler, d'avoir des références de ce type-là.
Oh, Devers a quand même le verbe beau, hein. Je trouve qu'il a une manière de dire le texte assez flamboyante, quoi. Il y a quand même une
Robert
habileté,
De Niro
quoi.
Aussi.
Oui, Robert De Niro aussi, mais c'est peut-être moins évident. Enfin, parfois, moi, j'avais entendu une anecdote sur De Niro qui refusait, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais sur le film de Sergio Leone, il était une fois en Amérique, il paraît que le premier jour, l'ingénieur son n'entendait rien de ce qu'il disait et avait été le voir à la fin de la journée dans la loge et lui avait dit, mais monsieur De Niro, on n'entend rien de ce que vous dites. Il dit, vous m'entendrez quand il y aura des dialogues un peu corrects. Donc, je sais qu'il avait un rapport au dialogue un petit peu compliqué. Oui, non, mais après, oui, c'est des acteurs que... Oui, oui, peut-être ce rapport au corps me fascine un peu. Ouais, à quel point ces gens-là sont capables de se transformer.
Ça,
ouais, ouais. Mais au-delà de ce qui peut apparaître comme un peu, je sais pas, voyant et spectaculaire, c'est tout ce que ça implique en tant que homme ou femme, se transformer comme ça et toutes les sensations que ça fait naître. Là, avec Bizot, là, c'est sûr que j'ai expérimenté des sensations que j'avais jamais expérimentées jusqu'à présent.
C'est-à-dire ?
Bah, vous êtes dans un état, quand vous êtes en diète comme ça pendant 21 jours, vous alternez des moments d'euphorie, des moments de lassitude et de dépression intense. Et
d'état second aussi, j'imagine,
ouais,
presque de transe.
Ouais. Et après, vous avez même une fierté qui commence, c'est-à-dire vous dites, je n'ai pas besoin des nourritures terrestres, donc je pense qu'il y a quelque chose qui ressemble à de l'anorexie à un moment donné. Donc c'est perturbant, évidemment.
Catherine Mouchet, vous, qui seraient les acteurs ou les actrices qui vous ont marqué?
Des actrices qui m'ont marqué?
Oui, ou des acteurs qui vous ont marqué, qui ont pu avoir même une influence sur la façon que vous avez d'envisager votre métier?
Moi, j'aime beaucoup Jeanne Moreau. Oui, beaucoup depuis toujours. Je suis restée, j'ai dû voir Julie Jim adolescente, et c'est le seul film, je suis restée dans la salle pour voir le film une deuxième fois. Je l'ai revu plus tard, c'est un très 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 beau film. Je trouve qu'il y a une liberté, et il nous faut la grâce de jouer ensemble en plus.
Lucille.
Je sais, Raphaël Personnaz, que vous appliquez une méthode de travail particulière, celle de Mikhaïl Tchekhov, qui est le neveu d'Anton Tchekhov, qui était un élève dissident de Stanislavski. En quoi ça consiste comme méthode, concrètement?
Concrètement, pour vraiment résumer, Stanislavski dit qu'on doit aller puiser dans son expérience personnelle, etc. Et Tchekhov dit que l'imagination, au contraire de l'expérience personnelle, est sans limite. Donc, il préconise de de muscler. Il voit l'imagination comme un muscle et il faut la muscler. Et d'ailleurs, c'est un livre avec des exercices très précis.
Quel genre ?
C'est des exercices physiques qui dit qu'il y a certains muscles qu'on ne travaille pas assez. Il faut les développer pour arriver dans des états un peu de transe, quoi, à des moments. C'est assez rigolo.
Mais vous faites quelle sorte d'exercice, alors ?
Je vous conseille de lire et de le faire vous-même. Vous pouvez le faire à la maison.
Ça a l'air très bizarre, puisque vous n'êtes pas rentré dans les détails.
Non, pas du tout. Au départ, on pourrait comparer ça à des trucs de détente, un peu de danse, etc. Mais c'est sûr que quand vous vous retrouvez seul chez vous à faire ça et que vous le faites pendant 2 heures, etc., oui, à un moment donné, vaut mieux pas que vous ayez un vis-à-vis trop proche avec vos voisins, parce que là, je pense qu'ils vont appeler, la police assez rapidement.
Vous avez des techniques de préparation, vous, Catherine Mouchet ?
Moi, je trouve que c'est un mélange, malheureusement. Donc, je me sens très métissée de ce point de vue-là.
Vous mélangez quoi ?
Mais oui, vous avez raison.
C'est-à-dire, d'un côté, on imagine, mais on imagine avec ce qu'on est, et avec ce qu'on a vécu, avec ce qu'on a observé chez les autres. Alors, je sais que j'entends parfois dans les interviews « Ah oui, jamais je ne penserai à ma grand-mère morte le jour où je dois jouer un 2 ». Ben si, bien sûr qu'on y pense. Hein. Évidemment qu'on raconte de son chagrin quand on a à jouer du chagrin. Mais c'est pas malsain. Enfin, je sais pas, moi je trouve pas ça malsain, mais il y a des gens qui trouvent que oui. Alors ça dépend peut-être de la façon dont on le fait. C'est un mélange de faux et de vrai avec lequel on jongle toute la journée quand on travaille. Voilà.
Pas de préparation physique ?
Tranquillement, oui.
Vous avez quand même commencé sous la direction de Claude Régis au théâtre. Donc j'imagine que ça demande une certaine préparation physique.
C'est-à-dire que oui, il y a une certaine concentration. Mais le mieux, à mon avis, pour jouer avec Claude Régis, c'est de garder une liberté. C'est ça qui est difficile.
Et de garder le silence. Lucille Comeau.
Le cinéma, pour vous, Raphaël Personnaz, est arrivé plus tard, enfin disons plutôt la reconnaissance au cinéma. Vous avez commencé au théâtre au Conservatoire du 20e arrondissement à Paris. Dans quel type de rôle est-ce que vous étiez distribué à vos débuts ?
Plutôt dans des comédies. Et à chaque fois que j'arrivais dans le drame, on rigolait encore. Donc c'était un peu embêtant. Et par contre, à contrario, dans l'image que je faisais, enfin dans les petits rôles que je faisais au cinéma ou à la télévision, on me proposait que des trucs sinistres. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Mais il n'y avait pas. Et après, ça s'est ouvert.
C'est Bertrand Tavernier qui vous a révélé, on va dire, au cinéma, même si vous étiez déjà au cinéma avec La Princesse de Montpensier en 2010. Je sais qu'à l'époque, vous aviez même pensé arrêter le métier, vous reconvertir du côté de l'huile d'olive, ce qui est pas mal non plus.
Oui, j'avais dit.
Non, mais je le sais.
C'est
le tropisme, Carole Bouquet.
Oui, oui.
C'est autre chose. Ouais. C'est vrai que vous auriez arrêté quelque chose ne s'était pas passé.
Mais je me dis toujours ça. Pour moi, c'est une façon d'appréhender ce métier aussi, de me dire rien n'est installé. Si à un moment donné, il y a des aventures sur lesquelles je peux aller et que ça me fait plaisir, très bien, mais je ne suis pas prêt à tout sacrifier pour ça. Pas du tout.
Catherine Mouchet, vous avez pensé aussi un temps arrêter ce
métier ?
Oui,
j'avoue que je suis d'accord. Oui, 2-3 fois, très sérieusement. Oui.
Pour quelle raison ?
Par manque de travail, je pense. J'aurais aimé travailler, par exemple, dans l'organisation d'un festival de théâtre ou d'un théâtre. Oui, ça m'aurait plu aussi. Mais j'y ai vraiment pensé. Et puis à chaque fois que j'allais le faire, c'est reparti.
Lucille.
À propos de Bertrand Tavernier, il est connu pour faire très peu de prises. Est-ce que c'était une difficulté pour vous sur le tournage de La Princesse de Montpensier ?
Oh, c'est motivant, c'est-à-dire vous dites il vaut mieux pas que je me loupe, mais il vous met dans un tel état de confiance, il vous implique tellement dans la mise en scène, et d'ailleurs que ça soit avec les acteurs ou avec les techniciens, moi j'en avais parlé avec lui de sa méthode, si on peut dire qu'il y a une méthode, mais il me dit qu'il veut que tout le monde s'épate mutuellement sur le tournage, donc je trouvais ça assez beau que chacun qui n'ait pas vraiment de... D'ailleurs, c'est frappant quand on va sur son tournage. Il est très imposant par ce qu'il est physiquement et évidemment par son CV, mais il ne joue jamais là-dessus. Mais vous avez l'impression que tout le monde est vraiment bien à son poste. Donc, il vous implique totalement dans la création, qui est un grand mot, mais quand même.
Et au niveau de Régis Vernier, de quel ordre est sa direction d'acteur dans un film particulier pour lui, qui a presque un registre documentaire, même si on est dans une fiction ?
Il était très... Il avait une idée très précise de ce qu'il voulait. Moi, peut-être que j'avais tendance à, en rajouter dans l'émotion, parce que je vivais ce que je vivais, lui vivait, voyait les choses d'une autre manière. Mais on a eu un dialogue assez ouvert sur les choses, mais en amont, plutôt en amont. Pendant, voilà, il ne fait pas trop de prises non plus. Non, ça va.
Dernière question, Lucille.
Vous êtes trompettiste de formation, ouais. Un peu même compositeur et chanteur. Qu'est-ce que vous faites comme type de musique? On va vous demander de chanter du Jacques Demy dans deux minutes.
Oui, c'est ça. Non, elle avait une très belle voix, je serais incapable.
C'est quoi votre répertoire?
Plus au début le jazz. Au début le jazz. Moi j'étais fasciné par Wynton Marsalis, qui est un trompettiste de jazz contemporain. Voilà, donc c'était plus ça au début. Puis maintenant ça varie un peu. Je trouve que la trompette dans la pop est plutôt intéressante. Et aussi après dans les compositeurs plus classiques, type Albinoni et tout ça. Mais bon, là c'est un peu plus pompeux quoi.
Le rendez-vous, la chronique.
Raphaël Personnaz et Catherine Mouchet, on vous retrouve dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est la chronique du mercredi de Jean-Marc Lalanne, un film japonais ce soir.
Absolument.
De Koji Fukada.
Bien dit.
Je suis assez bon en japonais.
Alors c'est un cinéaste qu'on ne connaissait pas du tout. C'est un jeune cinéaste japonais, c'est son troisième film. Au revoir l'été, mais c'est le premier à trouver le chemin des salles françaises. Et c'est une vraie révélation. C'est vraiment un très très beau film. C'est un film qui donne d'emblée un sentiment étrange de familiarité. C'est-à-dire qu'on a l'impression de tout reconnaître. C'est très très bavard, très intimiste. Les personnages passent leur temps à analyser leurs propres sentiments amoureux. Donc ça fait penser à du...
Luc Besson.
Raté.
Éric Rohmer.
Ah, je me suis trompé.
Donc voilà, ça fait beaucoup penser à du Rohmer, mais un peu déjà comme le cinéma de Hong Sang-soo, qui depuis quelques années fait beaucoup penser à Éric Rohmer. Et donc c'est vraiment une des surprises en fait, de l'évolution du jeune cinéma d'auteur asiatique. Rohmer en est un peu le cinéaste le plus influent. Alors, le cinéaste, il revendique cette influence d'Éric Rohmer, et le film croise deux films particuliers de Rohmer, qui sont ces deux films qui racontent la vie amoureuse en station balnéaire. C'est
La plage et Contes d'été.
Absolument.
Je regarde pas que lui, mais j'aime bien.
Voilà, donc le film commence, on voit deux personnages féminins qui arrivent dans une petite ville maritime au sud du Japon. L'une a 40 ans. L'autre en a à peu près 18, la première est la tante de l'autre et toutes les deux on leur a prêté une maison pour des vacances un peu studieuses où l'une est traductrice, elle va travailler et l'autre prépare ses examens de rentrée universitaire. Et comme elles sont toutes les deux très très jolies, ne tarde pas à se former une sorte d'essaim masculin autour de la maison où il y a à la fois un ancien amour de jeunesse que la tante retrouve, qui est un homme d'une quarantaine d'années lui aussi et qui est le gérant d'un love hotel. Il y a son neveu qui a 18 ans et qui va évidemment tomber un peu amoureux de la nièce de l'autre personnage féminin. Et puis il y a un étrange personnage de prof de français un peu veule qui va draguer à la fois la tante mais un peu toutes les jeunes fille qui traîne sur la plage.
Donc, Fabrice Luchini.
Exactement, ouais. Donc ça crée comme ça une sorte de marivaudage. Le film est très... il a un côté primesautier, radieux, solaire, mais en même temps c'est qu'en surface, parce que plus il avance et plus il y a une sorte de lame de fond beaucoup plus âpre, beaucoup plus mélancolique qui prend le dessus. Et par exemple, il y a un contrepoint à ce badinage, il y a un contrepoint qui est assez terrible, c'est ce qu'on voit dans le Love Hotel que tient des personnages, où là des messieurs de 60 ans font l'amour avec de jeunes filles de 18 ans qui se prostituent pour payer leur étude. Donc tout à coup, il y a une dimension sociale qui se met en place, et le film en fait clive l'humanité en deux. D'un côté, il y a ceux qui désirent mais qui ne font pas l'amour, comme les personnages principaux, qui se tournent autour, mais c'est un festival de râteaux, c'est-à-dire que personne n'arrive à ses fins, tout le monde est frustré à la fin. Et de l'autre côté, il y a ceux qui font du sexe, mais sans désir et sans sentiment. Et dans les deux cas, il y a un sentiment qui les submerge de solitude terrible. Mais la plus grande réussite du film, à mon sens, c'est que ce qu'on comprend, mais assez lentement, c'est que c'est un film vraiment sur le Japon post-Fukushima. C'est vraiment distillé par tout petit détail, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit comme ça en passant que la station est vide parce que les gens en parlent d'un tsunami, et puis tout à coup, il y a une manif anti-nucléaire. Et finalement, ce qu'on comprend, c'est que le garçon de 18 ans qui est là, c'est un réfugié post-Fukushima qui a été déraciné et qui est qui est donc installée chez son oncle. Mais ce qui est très très beau, c'est que le film ne le dépeint pas du tout comme une victime, mais en fait il vit cette catastrophe qui a pulvérisé sa famille comme une chance, parce qu'il détestait sa vie d'avant et que tout à coup il a pu se réinventer. Et ce que dit le film de manière assez subversive, en peignant cette espèce de société fatiguée où tout se répète, c'est qu'une catastrophe, ça peut être aussi l'occasion d'une table rase qui oblige à tout recommencer, mais en essayant de réfléchir à comment recommencer autrement.
Le rendez-vous.
T'as un joli prénom, tu sais. T'es de quelle origine? Tu vois, Edouard, hein, ce serait bien qu'il y ait ici des gens de toutes les origines. Tous tes amis sont blancs.
Non, tu dis n'importe quoi. Là.
Pas du tout. L'école a très bien fait de nous appeler. Pour une fois qu'ils sont intelligents. Je vais au théâtre. Tu viendras me voir jouer un jour.
Oui, mais c'est un plateau cinéma avec vous, Catherine Mouchet. Un parcours au théâtre qui commence, on l'a dit tout à l'heure, sous la direction de Claude Régis. La télévision avec Jalna ou Pigalle la nuit. Le cinéma avec Alain Cavalier, Olivia Sayas, Bertrand Bonello, Dominique Moll. Et le 31 décembre prochain, on prend de l'avance. Vous êtes à l'affiche de « Mon ami Victoria » de Jean-Paul Sivérac, Lucille.
L'histoire est inspirée d'une nouvelle de Doris Lessing, « Victoria, elle est Stavenée », celle d'une jeune fille noire à Paris, racontée à travers la voix de sa sœur sur une durée d'environ 20 ans. Alors au début, elle a 8 ans et elle fait la connaissance d'une famille bourgeoise, blanche, qui vote plutôt socialiste, dans un grand appartement où elle passe une soirée inoubliable. Puis des années plus tard, Victoria noue une relation amoureuse peu convaincante avec le plus jeune fils de la famille et elle va avoir une petite fille sans le vouloir et des années encore plus tard, elle va révéler l'existence de sa fille à cette famille.
Et vous, dans cette histoire, Catherine Mouchet, vous êtes Elena, la nouvelle grand-mère de cette petite fille, une comédienne de théâtre connue, prise par les tournées, qui vit donc dans ce bel appartement bourgeois. Un personnage croqué de façon assez féroce et en même temps plutôt subtil par Jean-Paul Sivérac. Comment il vous a présenté ce rôle précisément? Qu'est-ce qu'il vous en a dit? Vous en avez rien dit.
Je n'ai pas de souvenir de remarques précises sur le rôle.
Il vous a dit
parlé, pourquoi... Non, mais ça, moi, je ne déteste pas ce genre de rendez-vous. On a parlé de plein de choses.
De cinéma
mais,
de...
Non, oui, de cinéma aussi, de plein de choses. Mais je ne crois pas avoir eu de direction particulière pour le rôle. Mais je dois avouer que je trouve que c'est une qualité de sa part. Quand on a des idées trop précises, trop arrêtées sur un rôle, je ne sais pas, ce n'est pas toujours très dynamisant. Alors que quand on apprend à rencontrer quelqu'un, on a envie de faire le rôle pour lui, quoi, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on comprend ce qu'il a dans la tête et on essaye de... En fait, on essaye de le traduire, hein. C'est-à-dire qu'on l'interprète. On reçoit ce que les metteurs en scène racontent et puis on le raconte autrement, nous. Voilà.
Vous aviez lu le roman de Doris Lessing, vous l'avez lu pour
travailler
le rôle?
Oui.
Il vous a aidé à construire le personnage? Dans l'écriture même.
Oui. Non, c'est un livre très agréable à regarder. Alors, on m'a appris aussi que le fait d'être noire est vu de façon très différente en Angleterre et en France. Alors, moi, je ne me suis pas très au courant. Mais par exemple, les noirs anglais, paraît-il, n'avaient pas droit à un passeport anglais. Alors que nous, on n'a pas assez, on ne voit pas les choses comme ça du tout. Donc, sans doute que le roman a une résonance un peu différente que le film.
Lucille.
Jean-Paul Sivérac dit qu'il s'est inspiré pour construire notamment ses personnages du mélodrame américain des années 50. Il parle notamment de Douglas Sirk. Qu'est-ce qu'il vous a parlé justement de cette référence à la direction d'acteur?
Honnêtement, non. Non. Je pense que c'est dans son travail à lui, ça. Pas dans son travail avec nous.
Est-ce que vous l'avez ressenti plus tard dans la façon qu'il avait de vous diriger, qu'il y avait cette référence qui pouvait motiver
Franchement, je ne pourrais pas vous répondre oui.
Alors vous tenez ici un second rôle, c'est un statut que vous défendez, je relisais des articles et vous dites « on fait ce qu'on veut ». Quelle liberté est-ce que cela vous donne de faire ce que l'on veut quand on est un second rôle? Est-ce que vous pouvez proposer des choses, amener le personnage ailleurs?
La petite liberté qu'on a en plus, c'est qu'on a beaucoup moins de poids sur les épaules, on est moins souvent sur le tournage, on est plus heureux d'être là, on est moins fatigué, je ne sais pas comment dire, donc il y a moins de pression. Et du coup, c'est comme s'il y avait une grande place à prendre. Ça, je trouve ça très, très agréable. Je ne dis pas que je n'aime pas les premiers rôles, ce n'est pas du tout ça. Mais je trouve qu'un rôle, c'est un beau rôle. Quoi. Les gens sont souvent contents de vous voir arriver sur le tournage parce que ça change un peu l'idée.
Parce qu'ils savent que vous allez partir.
Oui, parce que ça change un peu l'idée de voir arriver quelqu'un de nouveau. Non, mais c'est vrai. Et j'aime bien profiter de tout ça.
C'était un statut que vous aimiez? Raphaël Personnage, mais
oui, je suis tout à fait d'accord avec. C'est vrai qu'on est plus frais, on a envie de découvrir peut-être plus les gens, on est plus. Sur la princesse de Montpensier, moi j'avais ressenti ça de manière très, très forte. Quoi. Ouais. C'est vrai, il y a moins de pression, quoi. Et puis on peut peut-être. Et puis souvent un second rôle a moins donc de moments, mais les moments sont peut-être peut-être mieux écrits en général.
C'est ce qu'on appelle avoir du caractère, quoi. Non.
C'est ça.
Lucille.
Après Thérèse, César du meilleur espoir féminin en 87, on ne vous a pas proposé justement de rôle de premier plan. Vous aviez alors 27 ans. Comment est-ce que vous comprenez aujourd'hui que ce premier rôle-là vous ait empêché ensuite d'évoluer dans le cinéma ?
J'étais un petit peu surprise en rencontrant Pierre Jolivet, longtemps après, qui m'a proposé de jouer dans ma petite entreprise. Mais ça a été très long pour qu'il me le propose. C'est-à-dire qu'on a mis un mois à se voir plusieurs fois. Et alors, il a fini par me proposer qu'on déjeune ensemble. Et alors, il m'a demandé, mais vous vous comportez comment sur un tournage ? Alors, je suis un peu restée sans voix. Alors, je me suis dit, voilà, le matin, j'arrive, je dis bonjour. Ensuite, on va déjeuner. Et puis, bref, le soir, je dis au revoir. Enfin, j'ai répondu des choses aussi.
Oui.
Et lui me regarde, il dit, ah bon ? Il n'en revenait pas. Alors, je me suis dit, mais quelle idée se fait-on du comportement qu'on peut avoir sur un tournage, quoi. Et je pense qu'il a été rassuré. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, après, les relations avec toutes les personnes qui font ce métier ont été beaucoup plus faciles. Et je pense que c'est lui qui a fait ce chemin à la place de tout le monde. Le rôle étant très particulier, on m'a imaginé très particulière. Alors, on est tous très particuliers, mais enfin...
Une secrétaire amoureuse de son patron. Il y avait une dimension comique dans le personnage qui a fait vraiment basculer, en effet, quelque chose de l'image que les gens pouvaient avoir de vous. Dans un entretien, il y a 15 ans, vous disiez n'avoir pas voulu revoir le film Thérèse. Depuis, vous l'avez revu ou toujours, il y a eu quand même quelque chose qui vous a arrêté ?
Je l'ai revu une fois.
Et c'est un traumatisme
Ah ben, c'était complètement différent. Parce que, en fait, je ne pouvais pas voir l'histoire avant. Comme on est à l'écran, enfin bon, on est... On ne peut pas voir l'histoire de façon neutre. Enfin, je trouve que c'est impossible, moi. Mais 10 ans après, oui. Donc, en fait, oui, c'était drôle. C'était une vision tout à fait différente. Oui. Presque émouvante, parce qu'en fait, on croit à l'histoire, on oublie que c'est soi, quoi. Pour le coup, on arrive à s'oublier, voilà.
Alors, comme à Raphaël Personnaz, on vous a demandé de nous soumettre un son qui vous a marqué. Et voici ce que vous avez choisi.
C'était pas tout à fait ça.
C'était pas ça, vous nous avez demandé un gong grave. Et je peux vous assurer que tout l'après-midi, il y en a eu des gongs qui sont passés dans le bureau. Qu'est-ce que vous vouliez ?
Oui, mais je ne savais pas très bien comment chercher. Alors je me suis dit, bon, il faut que je trouve un son qui m'a marqué, particulier.
Oui,
alors,
ça c'était bon.
De fil en aiguille, je me suis souvenu que chez moi, dans ma famille, il y avait un gong et qu'on tapait sur le gong pour nous appeler à table.
Ah oui ?
Et voilà, et donc j'en garde un souvenir délicieux. Et du coup, j'ai pensé aussi que je ne me retrouve pas toujours dans les scènes de repas qui sont dans les films. Et je trouve que moi, j'ai toujours aimé les repas de famille. Alors, contrairement à... Voilà, et les repas de famille quand j'étais enfant, les repas de famille maintenant, je trouve que c'est un moment très agréable. Et je trouve que dans les films, on a tendance il manque un peu de chaleur, quoi. On pourrait presque dire de sensualité. Moi, j'aime bien les films de Chabrol où on filme les œufs au plat qui frétillent. Et je me demande toujours, mais comment raconter ça mieux ? Comment raconter qu'on est à table ensemble et puis qu'il se passe quelque chose, quoi ? C'est toujours un petit peu froid, les repas, je trouve.
Pourquoi on vous appelait avec un gong ?
Eh bien, il y avait un gong, sans doute un cadeau de voyage, enfin, qui était là dans la maison. Et comme on était nombreux, boum, on appelait sur le gong pour nous rassembler, finalement. Mais c'est vrai que c'est un son qui reste.
L'heure du gong a sonné pour vous, d'ailleurs, Raphaël Personnes. Vous pouvez retourner au théâtre, enfin, aller au théâtre tout de suite.
Oui.
Bah merci à vous.
Merci à vous. Merci. Désolé de partir comme ça, merci.
Lucille.
Mais il y a une longue scène de repas, justement, dans Mon ami Victoria.
Oui, c'est vrai.
Comment vous l'avez abordée, justement ?
C'est tout à fait vrai.
Vous trouvez qu'elle était plus...
Elle
est un peu chabrolienne, d'ailleurs.
Et je reconnais que Jean-Paul Sivérac l'a tournée de façon plutôt assez différente de ce que j'ai pu vivre par ailleurs, dans d'autres tournages, je veux dire. Il a fait deux plans, et en fait... Presque, on pourrait dire un seul. Il a fait un seul plan de nous tous, donc un plan séquence. Et puis ensuite, il a fait un gros plan sur le rôle du frère aîné, sur le rôle d'Edouard, parce qu'on ne l'avait pas vu ce rôle-là depuis longtemps. Mais donc, en gros, c'était un plan séquence. Alors que souvent, les plans de repas sont très, très découpés. On filme l'un ou deux par deux. Mmh. Et vous allez me dire que chacun son métier. Mais à la fin de la journée, on n'en peut plus. Voilà. On est séparés les uns des autres, on n'arrive pas à jouer ensemble. Moi, souvent, je dois répondre à quelqu'un. En fait, c'est une balle de tennis qu'on met à la place. Enfin, ça devient complètement froid, alors que justement, un repas, c'est plein de vie. Voilà.
Alors, ce qui signe véritablement votre présence, et on l'entend encore ici, Catherine Mouchet, c'est votre voix. Or, je sais que cette voix, au départ, vous avez eu des difficultés à la développer, au point même de prendre des cours de chant au conservatoire avec Françoise Rondeleux. Qu'est-ce que ça a débloqué chez vous? Qu'est-ce qui ne passait pas?
Au conservatoire, il y avait une élève de troisième année qui est venue me voir un jour et qui m'a dit « Ah, mais tant que tu ne parles pas, c'est formidable. Mais dès que tu ouvres la bouche, c'est plus ça. » C'était pas méchant. Donc, ça m'a beaucoup fait...
Si elle avait été méchante, qu'est-ce que ça aurait été?
Voilà, ça m'a remis par terre. Mais là, pas du... Enfin, j'avoue que ça m'a sonné et que j'y ai beaucoup réfléchi. Par ailleurs, je n'ai pas du tout l'oreille absolue, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, j'ai vraiment eu besoin de prendre des cours de chant parce que je n'étais pas trop capable de chanter pour un rouleau. Voilà. Et là, en fait, le travail vocal, le travail de chant, franchement, c'est ce que j'aurais... Si on me demandait, si un jeune comédien me demandait quoi faire, c'est ce que je conseillerais. Ça développe... je sais pas, ça développe la voix d'une façon excellente pour le travail. Après, on sait où elle est, quoi. Elle est au bon endroit et elle porte quand on en a besoin.
Lucille.
À propos de Claude Régis, dont on parlait tout à l'heure, vous avez joué en 85 dans Intérieur de Maurice Maeterlinck. C'était sous sa direction une pièce qu'il a reprise cette année. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez vue avec les acteurs japonais.
Oui, je sais.
Donc l'histoire, ça se passe dans un tout petit moment, c'est très tendu. Ce sont des gens qui sont à l'extérieur d'une maison, qui doivent annoncer à une famille la mort de leur fille aînée. Quel rôle est-ce que vous teniez dans la pièce à cette époque?
Alors, il y a le rôle des deux sœurs, Marthe et Marie. Dominique Hubin jouait le rôle de Marthe et moi, je jouais le rôle de Marie. Donc, on jouait le rôle des deux sœurs. Dans mon souvenir, c'était vraiment un spectacle très particulier. Je pense que c'était, pour le coup, que c'était vraiment un beau spectacle. Il y avait du sap partout. L'action muette se passait en plein milieu de la scène. Et nous, on était sur les côtés. Ceux qui parlaient étaient en fait en premier plan et sur les côtés, mais c'était eux qu'on voyait. C'est l'histoire d'une mère qui apprend que son enfant s'est noyé. Alors comment aller lui dire? Je suis d'autant plus touchée par cette histoire que moi, une fois j'ai dû annoncer la mort de quelqu'un à d'autres personnes, on m'a dit que j'avais fait ça très mal et ça m'a beaucoup blessée. C'est vrai que c'est un vrai sujet.
Qu'est-ce que vous avez appris auprès de Claude Régis, qui vous reste encore aujourd'hui dans votre jeu, Catherine Mouchet?
Eh bien, il m'a appris qu'il suffit de penser à quelque chose pour que ça se voit. Alors, on jouait à Nancy, c'était vraiment mon premier spectacle, un peu, voilà. Et je me disais, merde, si je pensais à la choucroute, ça va se voir. Alors, évidemment, on était un peu trop entier au début, quoi, mais il n'y a pas toujours besoin d'exprimer les choses de façon voyante. Si on les imagine, pour reprendre la conversation de tout à l'heure, il faut avoir confiance en ça. Ça passe tout seul. Ce n'est pas complètement faux pour tout dire.
Et avec Jean-Paul Sivérac, quelle est la direction d'acteur aujourd'hui au cinéma? Est-ce qu'il est plusieurs prises?
Non, il fait très, 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 très peu de prises. Hein. Mais vraiment très peu. Très, très peu.
Ça signifie beaucoup de répétitions en amont sur le
plateau? On répète, pas beaucoup, mais enfin on répète suffisamment, disons, normalement.
Ouais.
Le travail est très calme, donc tout ne se perd pas dans tous les sens. Et j'ai eu l'impression qu'à partir du moment où le sens de la scène était là, ça lui suffisait. J'aurais tendance à dire que c'est vraiment quelqu'un d'intellectuel, et non pas... Je ne suis pas sûre que l'incarnation le passionne. Voilà.
Ça vous a gêné?
Ça m'a fait me poser des questions. Quelquefois, j'aurais bien fait 2-3 prises de plus, j'avoue. Oui, j'aurais bien essayé d'autres choses. Ça ne m'a pas gênée. Ça. Je me suis dit, tiens, c'est drôle, moi, je l'essaierai encore, volontiers. Voilà. Et en même temps, quand je vois Auguste Lagy sur l'écran, je reconnais qu'elle a, je me contredis exprès, hein, qu'elle a une présence très forte, qui est aussi une présence physique. Donc voilà, c'est des questions qu'on se pose. Hein.
Dernière question, Lucille.
Vous avez joué à la télévision et notamment dans une série franco-québécoise des années 90 qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait Jalna, une histoire de dynastie familiale au 19e siècle, une grosse machine avec un casting impressionnant et notamment beaucoup de gens du théâtre. Jacques Bonafé, il y avait aussi Daniel Darieux. Qu'est-ce que vous avez appris sur ce type de tournage-là?
Oui, c'était le premier tournage de série, j'ai appris à travailler vite. C'est vraiment ça. Je me suis renseignée un petit peu avant pour savoir comment on faisait, parce que ce n'est pas du tout évident. Il y avait quand même 72 jours de tournage pour moi, 4 scènes par jour, donc comment ne pas se perdre. Donc on m'avait expliqué, on m'avait conseillé de très bien préparer, toujours savoir où on en est, ce que j'ai fait. Et c'est vrai que ça permet de survivre quand même. Et puis, je dois dire qu'on s'est, comme vous le dites, il y avait une équipe de comédiens, on s'entendait très bien entre comédiens. Et comme on le disait tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait un nouveau rôle qui arrivait, hop, on était content de le rencontrer. Donc le film s'est beaucoup fait là-dessus.
Hello Zoé Sfaz.
Hello Laurent Goumar. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour en passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard.
Là, c'est sûr que j'ai expérimenté des sensations que j'avais jamais expérimentées jusqu'à présent.
Là, j'avoue que je suis d'accord. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle avoir du caractère, quoi. Non,
c'est ça.
Merci à nos invités. Raphaël Personnaz, Le Temps des aveux est sorti en salle aujourd'hui. Une nouvelle amie est toujours en salle. Et l'affaire SK1 sortira le 7 janvier. Et je signale que vous êtes en scène, ça va être dans quelques instants, au Théâtre Héberto à Paris pour Les Cartes du Pouvoir jusqu'au 11 janvier. Catherine Mouchet, Mon amie Victoria, sortira en salle le 31 décembre. Ça, c'était pour aujourd'hui. Mais demain... Qu'est-ce qu'on a dansé là-dessus, Jean-Marc ? Demain, cinéma, bande dessinée, photographie et grand large avec Lucie Borletot et François Lepage. La désannonce, Hippolyte.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumar, une émission préparée par Lucille Como, Adrien Azeli, Aïssette Wendoy, Hippolyte Babilote, Journal de la Culture, Zoé Sfès, Chronique Cinéma, Jean-Marc Lalanne, à la prise de son, Tristan Gratalon et Stéphane Poitvin, et à la réalisation, Thomas Beau. Vous pouvez réécouter l'émission pendant 1000 jours et la podcaster sur le site franceculture.fr et rejoindre la grande famille du rendez-vous sur Facebook et Twitter.
Il est 19h54, vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous.